إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي في الله والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنواصل بعون الله تبارك وتعالى دروسنا فيما يتيسر من شرح الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، بشرح فضيلة الشيخ محمد بن سعيد بن رسلان حفظه الله تعالى. وما زلنا في باب من مات له سقط. فقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن السويد عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله. مالك ما قدمت، ومال وارثك ما أخرت. طيب، donc on passe au hadith ou plutôt nous restons dans le hadith qu'on avait commencé à expliquer la semaine dernière dans le chapitre donc concernant celui dont un fœtus est mort dans le ventre donc de son épouse. Il dit ici l'imam al-Bukhari dans le hadith numéro 153, donc rapporté par Muhammad ibn Sallam, qui a dit, Abu Muawiyah nous a informé, qui a dit, al-A'mash nous a informé, selon Ibrahim al-Taymi, selon al-Harith ibn Suwayd, selon Abdullah. On avait dit ici qu'Abdullah, c'est Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qui a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: qui parmi vous, les biens de son héritier sont plus aimés de lui que ses propres biens? Et Sahaba, radiyallahu anhum, de répondre: ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, yani tous parmi nous, yani ses biens sont plus aimés pour lui que les biens de son héritier. Il a le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, de dire: sachez qu'il n'y a personne parmi vous, yani, sans que les biens de son héritier soient plus aimés pour lui que ses propres biens. Puis il a dit le prophète, alayhi salatu wassalam, maluka ma qaddamt, tes biens à toi sont ce que tu as avancé, et les biens de ton héritier sont ceux que tu as retardés. Taïeb. Naam. إذن قوله عليه الصلاة والسلام: مال وارثك ما أخرت، أي ما ادخرت لورثتك ولم تنفقه في وجوه الخير. Donc il faut comprendre ici par la parole du prophète عليه الصلاة والسلام lorsqu'il dit que tes biens à toi sont ceux que tu as avancés et les biens de ton héritier sont ceux que tu as retardés. Donc lorsqu'il dit les biens de ton héritier sont ceux que tu as retardés, c'est-à-dire ceux que tu as mis de côté, ceux que tu as économisés, ceux que tu as mis de côté pour ton héritier après ta mort. Et donc, ce sont les biens que tu n'as pas dépensés dans le sentier d'Allah, tabarak wa ta'ala. Les biens que tu n'as pas dépensés dans les actes de charité et de bienfaisance. Voyez? C'est ça dont fait allusion ici, ou la chose à laquelle le prophète alayhi salatu wassalam fait allusion. Fa قوله عليه الصلاة والسلام اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال ورثه أحب إليه من ماله مالك ما قدمت ومال ورثك ما أخرت. فقال الشيخ رسلان حفظه الله: أنت تحب مال وارثك أكثر مما تحب مالك، فالذي تخلفه هذا ليس لك، والذي تقدمه هذا هو الذي يكون لك. فإن كنت منطقيا متسقا مع نفسك مستقيما مع عقلك وفكرك ينبغي عليك أن تحب ما هو لك والذي لك هو ما تقدمه، وأما ما تتركه فهذا مال وارثك، ومع ذلك فأنت تكره العطاء والبر والبذل مع أن هذا مالك من مالك، مع أن هذا مالك من مالك. وتحب ما تبقي، وهذا الذي تبقيه ليس بمالك، وإنما هو مال وارثك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية بهذه الطريقة العقلية التي استخرج فيها الحكم من أفواههم هم. طيب. Donc la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit sachez qu'il n'y a personne parmi vous sans que les biens de son héritier soient plus aimés pour lui que ses propres biens. Puis il a dit donc, tes biens à toi sont ceux que tu as avancés, alors que les biens de ton héritier sont ceux que tu as retardés. C'est-à-dire que toi, en vérité, tu aimes plus les biens de ton héritier que tes propres biens. Taïe. Alors que les biens, l'argent, le matériel, le patrimoine, que tu laisses après toi, eh bien, ce n'est plus ton bien. Enfin, ce ne sera plus ton bien après ta mort. Alors que l'argent, les biens, le matériel que tu as avancé, yani dans le sentier d'Allah, que tu as donné de ton vivant, en l'espoir de la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, ça c'est ton bien. Ça c'est vraiment ton bien. Donc, si tu étais vraiment logique, cohérent avec toi-même et droit au niveau de ta réflexion et de ton intellect, eh bien, il incombe à ce que tu aimes ce qui t'appartient. Et ce qui t'appartient, eh bien, c'est les choses que tu as avancées pour l'au-delà. Alors que les choses que tu vas laisser après ta mort, eh bien, ça appartient en vérité à tes héritiers. Taïeb. Mais malgré ça, eh bien, il dit, tu détestes le fait de donner, tu détestes le fait de verser l'aumône, la charité, d'être généreux. Taïeb. Alors que toutes ces choses-là, lorsque tu donnes pour le pauvre, lorsque tu nourris un nécessiteux, lorsque tu habilles quelqu'un qui est dans le besoin, eh bien tous ces biens-là que tu as donnés, ce sont tes biens à toi, que tu retrouveras à Yom al-Qiyamah, le jour du jugement. Taïeb. Mais au contraire, tu vas aimer ce qui va rester. Mais ce que tu vas garder et économiser jusqu'à ta mort, eh bien ça, ce n'est pas ton bien, ce n'est plus ton bien. Ça deviendra le bien de tes héritiers. C'est pour cela qu'il dit le prophète, alayhi salatu wassalam, il a posé cette problématique aux compagnons, radiyallahu anhum, de cette manière, intellectuelle et logique, afin que ils fassent sortir le jugement de la bouche même des Sahaba, radiallahu anhum, qu'ils se rendent compte que leurs actes, yani, prouvent qu'ils préfèrent, hein, ils préfèrent, yani, garder leur argent, hein, et pour leurs héritiers, alors que cet argent-là qu'ils laissent à leurs héritiers n'est plus leur argent, et ce sera l'argent de leurs héritiers. Alors que ce qu'ils avancent pour le jour de la résurrection, ça, c'est leur argent. Et cet argent-là, ils le retrouveront Yawm al-Qiyamah. Naam. طيب فما يؤخذ من هذا الحديث دليل على أن من أساليب الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب ضرب الأمثال التي يستفيد منها العقلاء العاملون أو العالمون كما قال المولى الكريم سبحانه وتعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وفي هذا المثل الرائع في هذا الحديث الذي عرضه النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة السؤال ليكون عليه الجواب فمال الإنسان هو مال له ومال لوارثه فالذي هو ماله ينتفع به ما انفقه في وجوه الخير بدءا بالنفس Qu'est-ce que l'on tire de ce hadith? Eh bien, l'indication que fait partie des procédés dans la prédication, dans l'exhortation, dans le rappel, dans l'incitation au bien ou dans l'intimidation vis-à-vis du mal, eh bien le fait de donner des paraboles, des exemples dont vont profiter ceux qui sont doués de raison et ceux qui ont yani, la connaissance. Il dit Allah Jalla wa Ala, dans la sourate Al-Ankabut, verset 43, dans le sens rapproché du verset, il dit « Et ces paraboles ou ces exemples, nous les donnons aux gens et ne les comprennent que ceux qui sont dotés de connaissances, ne les comprennent que ceux qui sont yani, « Al-Alimoun », ceux qui sont dotés de connaissances. » Donc, dans cet exemple, dans cette comparaison qu'a faite ici le prophète alayhi salatu salam, dans ce hadith, dans laquelle donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a exposé, en leur posant une question, hein, afin de recevoir une réponse d'abord de leur part, il leur a exposé le fait que les biens de la personne sont ses biens à lui et des biens à ses héritiers. Et les biens qui lui appartiennent, en vérité, ce sont ceux qu'il a dépensés dans les actes de bonté, de bienfaisance. Taïeb, en commençant par lui-même. Qala Cheikh Huna, fanafaqatuka ala nafsika min as-sadaqat. بل من أفضلها لأنك تكف وجهك عن المسألة ونفقتك على من تعول من زوجة وأبناء ووالدين وقريب وجبت نفقته عليك كذلك من أفضل ما يقدمه الإنسان وهو ماله الباقي لما فيه من الأجر وما انفقه بعد ذلك في وجوه الخير على اختلاف أنواعها كعمارة المساجد وحفر الآبار ومواساة الفقراء والمساكين والعطف على الضعيف بما يستطيع ونحو ذلك من وجوه البر. Donc, en commençant par soi-même, ça veut dire quoi en commençant par soi-même? Eh bien, en dépensant pour sa propre personne. Vous voyez? Parce que cela fait partie des meilleurs sadaqat, le fait de dépenser pour sa propre personne. Car cela va te permettre ainsi de ne pas demander aux gens, de ne solliciter personne, car tu te suffira de ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala t'a donné. Et également, bien sûr, après toi, le fait de dépenser pour ceux qui sont sous ta tutelle ou ta responsabilité, tels que ton épouse, tes enfants, tes parents, tes proches. Hein? Donc, tous ces gens-là, pour qui il est obligatoire pour toi, eh bien, que tu subviennes à leurs besoins. Donc, toutes ces dépenses-là font aussi partie des meilleurs sadaqats que tu peux avancer pour l'au-delà. Et ce sont des biens donc qui vont rester jusqu'à Yom al-Qiyam par rapport à la récompense que tu auras donc mis de côté pour le jour où tu seras jugé. Et après cela, bien sûr, tout ce que tu peux dépenser dans les actes de bienfaisance, yani sous leurs formes les plus diverses et variées, telles que le fait de d'édifier hein, des mosquées, le fait de creuser des puits, le fait de subvenir aux besoins des pauvres et des nécessiteux, le fait de consoler et réconforter ceux qui sont faibles, et tout ça selon ou en fonction des capacités de chacun, et autre que cela parmi les catégories de bienfaisance. Alhamdulillah. طيب فهذا المال الذي ينفقه في هذه الجوانب هو ماله وما بقي في ملكه وورثه فهو مال وارثه الذي يبقى ولا ينفق منه فقال أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله ثم بين أن مال الوارث الذي يبقى ولا ينفق منه وأن ما أنفقه هو ماله كما قال الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. Donc pour finir ce hadith, il dit ce bien-là que il dépense dans tous ces types de bienfaisance, que ce soit la dépense envers soi-même, la dépense envers les gens pour qui il est obligatoire de dépenser ou les dépenses dans les actes de bienfaisance, eh bien ce sont vraiment c'est bien à lui. Et tout ce qu'il reste après dans sa propriété et qu'il va laisser en héritage après lui, eh bien en vérité, ce sont les biens de ses héritiers hein, qui vont rester. Et ces biens-là, il ne les aura pas dépensés dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il ne pourra pas en profiter le jour de la résurrection. Donc il dit le prophète ici, alayhi salatu wassalam, Ayyukum mal warithihi ahabbu ilayhi min mali. Qui d'entre vous, les biens de ses héritiers, sont plus aimés pour lui, sont plus aimés pour lui que ses propres biens? Taïeb, Aïnaam. Donc, ils ont répondu au Sahaba, non, nous préférons tous nos biens à ceux de nos héritiers. Et là, le prophète leur a fait comprendre que si vraiment ils préféraient hein, leurs biens à ceux de leurs héritiers, eh bien, ils dépenseraient tout dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala et ils n'économiseraient pas yani, pour que leurs héritiers soient riches après leur mort, par exemple. Donc, il a exposé ici le fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les biens de l'héritier qui va rester après sa mort, eh bien, c'est le bien qu'ils n'ont pas dépensé ou qu'ils n'auront pas dépensé dans le sentier d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'ils ont dépensé dans le sentier d'Allah Jalla wa Ala? Eh bien, c'est ça le bien qui leur appartient vraiment. Comme il dit Allah, Tabaraka wa Ta'ala, dans la sourate Saba, verset 39, dans le sens rapproché. Et ce que vous avez dépensé, tout ce que vous avez dépensé, yani, Allah Jalla wa Ala le remplace et c'est le meilleur des donateurs. Alhamdulillah. فنواصل إن شاء الله تعالى وننتقل إلى الحديث الذي يلي. فقال الإمام البخاري رحمه الله قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب قالوا الرقوب الذي لا يولد له قال لا ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. Donc on passe au hadith suivant, inshallah ta'ala. Tayyib. Il dit ici, l'imam al-Bukhari, il a dit, c'est-à-dire le rapporteur du hadith précédent, qui est Abdullah ibn Mas'ud. Il a dit que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, qui est pour vous Ar-Raqoub? Ils ont dit, Ar-Raqoub, c'est celui, yani, qui n'a pas d'enfant. D'accord? C'est celui qui n'a pas d'enfant, c'est-à-dire celui qui a été touché par la mort, yani, de ses enfants, qui sont morts avant lui, yani. Voyez? Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, non, Ar-Raqoub, c'est celui qui, alladhi lam yuqaddim walidayhi shay'a. C'est justement, au contraire, c'est celui qui n'a pas perdu d'enfant. Ar-Raqoub, c'est celui qui n'a pas perdu d'enfant, yani, en bas âge. فهذا الحديث صحيح. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه. الحديث اللي authentique, il a été rapporté également par l'imam مسلم dans son صحيح. معنى الكلمات قوله رحمه الله تعالى قال يعني قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطف على الحديث الذي مر قبله. وعبد الله إذا ذكر في الصحابة فهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه طالما أنه ذكر هكذا مجردا. Donc, tout d'abord, comme on a dit déjà tout à l'heure, ici, lorsqu'il dit le Bukhari, il a dit, il parle du rapporteur du hadith précédent, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud. D'accord? Abdullah ibn Mas'ud. Donc on voit que lorsque deux hadiths ont été rapportés par le même rapporteur, eh bien il se peut que l'imam al-Bukhari ne répète pas le nom du rapporteur, mais il dit juste, et il a dit ceci et cela. D'accord? Donc, Abdullah, lorsqu'il est cité parmi les Sahaba, il y en a sans précision à savoir qui est ce Abdullah. Est-ce que c'est Abdullah ibn Abbas? Est-ce que c'est Ibn Omar? Est-ce que c'est Abdullah ibn Zubayr? Est-ce que c'est Abdullah ibn Amr? Eh bien, c'est Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. D'accord? Tant que, bien sûr, il est mentionné que Abdullah. Ah. Non, chez l'imam al-Bukhari, ça peut être que Ibn Mas'ud. Bien sûr, quand on parle du niveau des compagnons, du niveau des Sahaba, après, au niveau des générations d'après, comme Tabi'in et tout, ça c'est autre chose. Mais Abdullah, au niveau des Sahaba, ici chez l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, c'est Ibn Mas'ud. D'accord? Et personne d'autre. طيب فالرقوب الذي لا يعيش له ولد والمعنى أنكم تعتقدون أن الرقوب هو المصاب بموت أولاده وليس هو كذلك شرعا وإنما الرقوب هو الذي لم يتوفى أحد من أولاده في حال حياته فيحتسبه ويكتب له الثواب مصيبته وصبره عليه. Donc الرقوب, parmi l'essence d'un raqoub connu chez les Arabes, eh bien, celui qu'on donnait ici à Sahaba, radiallahu anhum, c'est-à-dire celui qui a perdu donc des enfants, ou qui n'a pas eu d'enfants, ou qui a perdu des enfants avant sa propre mort. D'accord? Donc, en gros, ici, il leur dit le prophète, alayhi salam, vous croyez, vous pensez que Raqoub, c'est celui qui a été touché par la mort de ses enfants. Mais en vérité, il dit que dans la religion, ce n'est pas ça, Ar-Raqoub. Il dit que dans la religion, Ar-Raqoub, c'est celui, au contraire, qui n'a pas vécu la mort d'un de ses enfants, de son vivant. Celui qui n'a jamais connu la mort d'un de ses enfants de son vivant. Hein? Et qui donc n'a pas pu espérer la récompense d'Allah tabarak wa ta'ala à travers cette perte. Il n'a pas pu espérer donc qu'Allah jalla wa ala lui prépare hein, une rétribution par rapport à son malheur, à son épreuve et à sa patience vis-à-vis cette épreuve. D'ailleurs, إذن ما يؤخذ من هذا الحديث أولا فضل موت الأولاد وفضل الصبر على فقدهم. هذا الحديث والذي قبله إلى غيرهما من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يدلك على أن ميزان الشرع قد يكون على غير ما يبدو للناس وعلى غير ما يعتقدونه عندهم من موازينهم. هم يعدون الرقوب الذي لا يولد له، فعكس صلى الله عليه وسلم القضية وعدلها فقال لا، إنه الذي لم يقدم من ولده شيئا، لا كما قال تقولون كما مر، أيكم مال وارثه، أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله. الحديث فعكس لهم القضية لأنهم فهموها على غير ما ينبغي أن تفهم. Donc, parmi les choses qu'on tire de ce hadith, la récompense et le bienfait qui se trouve dans la mort, dans la perte de ses propres enfants. Et le mérite de la patience face à cette épreuve et cette perte. Donc ce hadith et celui qu'on a vu juste avant, et d'autres encore parmi les hadiths de Nabi alayhi salatu wassalam, il t'indique que la balance de la religion, le critère de jugement de la religion, eh bien, il se peut qu'il soit autre chose que ce qui est apparu aux gens. La législation ou la religion, elle a des critères, des normes qui peuvent être différentes de ceux des gens et qui peuvent être en divergence avec ce que les gens croient et de ce que les gens utilisent comme normes et comme critères dans leur jugement. Donc on voit ici par exemple que chez eux, Ar-Raqoub, ici chez les Sahaba, Ar-Raqoub c'était celui qui n'a pas perdu d'enfant. Pardon, au contraire. Chez le Sahaba, Raqoub, c'est celui qui a perdu des enfants. D'accord? De son vivant. Il y en a qui a des enfants qui sont morts avant que lui ne meure. D'accord? Pour eux, c'est ça, Raqoub. Alors le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit non. C'est le contraire. Il a dit, Raqoub, c'est au contraire celui qui n'a pas perdu d'enfants de son vivant. Donc il a modifié la compréhension qu'ils avaient de Raqoub. Hein? Et il a dit celui, إِنَّهُ الَّذِي لَمْ يُقَدِّمْ مِنْ وَلَدِهِ شَيْئًا, c'est-à-dire celui qui n'a pas perdu d'enfant ou celui dont aucun enfant n'est mort avant lui. Voyez? Pas comme vous dites, comme on l'a vu dans le hadith précédent, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé qui d'entre vous les biens de ses héritiers sont plus aimés pour lui que ses propres biens. Hein? Les sahabas ont tous répondu non. Tous d'entre nous, on préfère nos biens à ceux de nos héritiers. Mais le prophète, il leur a dit non. Hein? Celui qui met de l'argent de côté pour ses héritiers et qui ne dépense pas dans le sentier d'Allah, c'est qu'il a préféré l'argent de ses héritiers à son propre argent. Parce que s'il aimait vraiment son argent plus que l'argent qu'il va laisser à ses héritiers, voyez, eh bien, il l'aurait dépensé dans le sentier d'Allah tabarak wa ta'ala avant de mourir. Voyez. Donc il a retourné ici la question afin qu'ils aient une bonne compréhension et qu'il n'ait pas au contraire une compréhension qui serait erronée par rapport à la religion d'Allah tabarak wa ta'ala. Naam. وكذلك ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من حال الصائم مع ربه جل وعلا، ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا عندكم أنتم له رائحة كريهة من أثر الإمساك ومن أثر الصيام، وأما هذه الرائحة عند الله تعالى فهي أطيب عند الله من ريح المسك. Autre exemple de différence de normes et de critères chez les gens et auprès d'Allah tabarak wa ta'ala, eh bien, ce dont le prophète a informé sur l'état du jeûneur avec son Seigneur tabarak wa ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète à propos du jeûneur? Il a dit l'haleine, yani l'haleine de la bouche du jeûneur, elle est meilleure pour Allah que l'odeur ou que le parfum du misk. Que le parfum du misk. Voyez? Alors que chez vous, yani chez vous les humains, hein, eh bien, cette haleine du jeûneur, elle est mauvaise. Elle est détestable chez vous. Car cela fait partie des effets secondaires, on va dire, du jeûne. D'accord? Du fait de ne pas manger, de ne pas boire durant la journée. Alors que cette odeur, pour Allah, tabarak wa ta'ala, eh bien, elle est plus agréable pour Allah que le parfum du misk. Donc on voit ici encore une fois la différence de jugement, yani, entre l'odeur, cette haleine chez les êtres humains et cette odeur, cette haleine pour Allah tabarak wa ta'ala. Mais religieusement, cette odeur, cette haleine-là, elle est plus agréable encore que le parfum du misk, subhanallah. وكذلك في الحديث الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها لما ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الشاة وخرج، فلما رجع سأل صلى الله عليه وسلم عائشة عن الشاة وما فعلت فيها، فقالت لقد ذهبت كلها إلا ذراع، والذراع اليمنى الأمامية يحبها رسول الله عليه الصلاة والسلام فأبقتها له، قال بل بقيت كلها إلا الذراع. فينبغي على الإنسان أن يعدل موازينه. Autre exemple qui va nous aider vraiment à bien comprendre le hadith confirmé par Aïcha radiallahu anha lorsque le prophète il a égorgé une bête, yani un mouton ou une chèvre. Il a égorgé la bête puis il est sorti. Et lorsqu'il est revenu, le prophète il a demandé à Aïcha, yani, qu'est-ce qu'ils ont fait de cette bête qu'il avait égorgée? Donc, ils l'ont dépecée, ils l'ont découpée, etc., etc. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Elle a dit, yani, laqad dhahabat kulluha. Donc, elle a dit, certes, yani, on a tout donné. Dhahabat kulluha, c'est-à-dire, il n'y a plus rien. On a tout donné. Elle est partie tout entière. C'est-à-dire ce qu'ils ont donné aux pauvres, aux nécessiteux, etc., en viande. Illa dhira, elle a dit la seule chose qui n'est pas partie de la bête, c'est al-dhira. Al-dhira, il dit les cheikhs, c'est l'épaule. L'épaule droite de la bête, hein, l'épaule droite de la bête, et cette partie de la bête, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup. Et c'est pour cette raison que Aïcha radiallahu anha, elle a conservé cette partie-là de la bête, c'est-à-dire l'épaule droite de la bête, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc elle n'a pas donné, elle a gardé juste ce morceau-là pour que le prophète puisse en manger. Donc écoutez bien qu'est-ce qu'elle a dit. Elle a dit tout est parti, toute la bête, hein, les morceaux de la bête qui a été sacrifiée pour Allah, elle est partie, il reste qu'une seule chose, c'est quoi? C'est l'épaule. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète? Il a dit non, au contraire, tout est resté sauf l'épaule. Ça veut dire quoi? Tout est resté sauf l'épaule. Alors qu'elle, elle a dit, tout est parti sauf l'épaule. Elle a dit non, tout est resté sauf l'épaule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce que Aïcha, elle a donné aux pauvres et aux nécessiteux, c'est ça qui va rester jusqu'au jour de la résurrection. C'est ça qui va rester en termes de récompense.
Elle a donné un bras.
Elle a donné les parties du mouton. Pour les pauvres.
Mais le bras, je ne fais pas le vent.
Elle a gardé que l'épaule pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça y est, mais tout le reste, elle a donné. Donc elle a dit, tout est parti. Et le prophète lui a dit, non, en vérité, tout est resté sauf l'épaule. Ça veut dire que tout ce qu'elle a donné, fi sabilillah, le sentier d'Allah, tabarak wa ta'ala, pour les pauvres, etc., c'est ça qui va rester jusqu'au jour de la résurrection. C'est ça qui va te ramener de la récompense. Alors que ce que tu vas manger pour toi, tu vas le manger, tu vas te régaler, certes, mais après, tu vas aller aux toilettes, akramakumullah, il y a tout qui va disparaître. Vous voyez? Y a pas, y a, tu n'as pas de rétribution par rapport à ça qui va rester auprès de toi jusqu'au jour de la résurrection. Alors que ce que tu donnes à manger, à boire, c'est ça qui va rester. Est-ce que tu comprends ici? L'inversement des choses. Est-ce que tu comprends pourquoi le prophète il a dit, au contraire, tout est resté sauf l'épaule. C'est bon? Alhamdulillah. Donc il dit, c'est pour ça qu'il dit le cheikh Raslan Fidallah Ta'ala, qu'il faut que l'individu réajuste sa balance, réajuste ses critères de jugement. C'est comme ça qu'on doit juger. Ce qui reste, ce sont les choses qu'on a avancées pour l'au-delà. C'est ça qui reste vraiment. Parce qu'après la mort, c'est ça dont tu auras besoin après la mort. Alors que les choses que tu as bues, que tu as mangées, ça, c'est des choses qui disparaissent, qui partent, qui vont rentrer dans ta bouche et qui vont ressortir. Ça reste pas, Yom Al-Qiyamah. Ça y est? Comme l'argent que tu vas garder, on a vu tout à l'heure, l'argent que tu vas mettre de côté, tu vas amasser de l'argent, une fortune immense, tu vas la mettre, hein, dans un coffre-fort. Mais cet argent-là, si tu ne dépenses pas de le sentier d'Allah, tabarak wa ta'ala, et tu meurs. Cet argent-là, Yanni, il va pas rester. Il va partir, il va appartenir à tes héritiers. Mais il n'est pas à toi.
Et ces héritiers les dénoncent pas.
C'est pareil. Ça sera leur argent, ils en font ce qu'ils veulent après. Ça y est? Après, ça deviendra leur argent. Et à eux, après, de dépenser de la santé d'Allah, tabarak wa ta'ala. Ça y est? Non. إذن قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله هذا الحديث فيه ترغيب في الصبر والاحتساب لمن مات عليه من أبنائه ذكرا كان أو أنثى فصبر واحتسب فهذا الذي مدحه النبي صلى الله عليه وسلم وليس الرقوب كما يفهمه بعض الناس أن الذي لم يخلف ولدا بل صحح النبي صلى الله عليه وسلم هذا المفهوم فبين أن الرقوب هو الذي لم يمت له ولد فهو حث على الصبر والاحتساب لمن ابتلي بموت ولده ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر من ذلك يجي الشيخ زيد المدخلي رحمه الله تعالى في حديث comme un devoir par rapport au raqoub, il contient donc une incitation, un encouragement à patienter et à espérer la récompense d'Allah tabarak wa ta'ala pour celui donc qui a perdu un ou des enfants, qu'ils soient des garçons ou des filles, et qui a patienté, qui a espéré encore une fois la récompense parce qu'il sait qu'Allah jalla wa ala le récompensera à travers cette épreuve qui est certes difficile. Et c'est lui dont a fait les éloges ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc un raqoub, ce n'est pas comme comprennent certaines personnes, yani un raqoub, pour eux c'est celui qui n'a laissé aucun enfant derrière lui, c'est-à-dire qui a perdu des enfants avant sa mort. Non, le prophète il a rectifié cette compréhension et il a dit que raqoub, au contraire, c'est celui qui n'a pas perdu d'enfant. C'est celui qui n'a pas perdu d'enfant de son vivant. Et donc ici, on a dans ce hadith un encouragement, hein, un réconfort envers ceux qui ont perdu des enfants, afin de les encourager à patienter et à espérer la récompense d'Allah tabarak wa ta'ala, qu'ils aient perdu des enfants, des garçons ou des filles, qu'ils aient perdu un, deux ou plus, qu'ils continuent à patienter et à espérer la récompense, car Allah jalla wa ala ne manque jamais à sa promesse. Voilà. طيب فقال الشيخ رسلان فداه الله قد تكون النظرة إلى الأمور والحياة على غير ما ينبغي أن تكون الموازين والنظرة في شرع الأغر فعلى الإنسان أن يصدر في كل أمر من أموره بكتاب وسنة كما قال سلفنا عليهم الرحمة إن استطعت أن لا تحك جلدك إن استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل، فإن كان ذلك كذلك فكيف بما فوق ذلك من أنواع المعاملات؟ بل فكيف بما فوق ذلك من أنواع العبادات؟ فكيف بالاعتقاد؟ فينبغي على الإنسان أن يحرر هذه الأمور تحريرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لهم الأمر وأنه ليس كما فهموه. Et pour finir, donc il se peut que notre conception des choses, notre conception de la vie soit erronée et ne soit pas en adéquation en vérité avec les critères et les normes de la religion, avec la conception religieuse de l'islam noble. Donc il faut que la personne revienne dans toutes ses affaires au livre et à la sunna. Dans toutes ces situations, dans tous ces états, dans tous ces problèmes, il doit revenir au livre à la sunna. Qu'est-ce que je dois faire? Comment dois-je me comporter dans telle ou telle situation? C'est pour cela que les salaf, rahimahumullah, ils disaient, subhanallah, ils disaient, si tu peux te gratter la peau avec ton ongle, conformément à la sunna, fais-le. C'est-à-dire, si tu arrives à trouver un hadith, une sunna sur la manière de se gratter la peau, de se frotter la peau avec l'ongle, eh bien, applique la sunna. Applique la sunna dans ce cas-là. Si tu trouves une information provenant des compagnons, radiallahu anhum, sur le fait de comment se gratter la peau avec son ongle, eh bien, applique ce qu'ils ont appliqué. Regardez, subhanallah, ce geste-là qui est, hein, là, donc, là. Ici, l'exemple qu'ils ont donné, ici, les salafs, nous montrent que même dans les choses qui nous paraissent minimes, qui nous paraissent, yani, pas importantes, eh bien, il faut qu'on accorde de l'importance à appliquer et à tout faire pour être en harmonie avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam, et celle des compagnons. Que dire alors de ce qui est plus important que ça parmi les règles sociales, les règles comportementales qu'on doit adopter avec les autres? Que dire alors de plus important que ça concernant les règles des adorations, des ibadats d'Allah tabarak wa ta'ala? Que dire alors de la croyance? Subhanallah, revenir tout le temps, quelle que soit l'affaire, minime ou énorme, au livre et à la sunna. Donc il faut donc que la personne vérifie et rééquilibre les conceptions qu'elle a des choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc leur a exposé hein, l'affaire et leur a fait comprendre que ce n'est pas ce qu'ils avaient compris. Et que ce qu'ils avaient compris était en fait, n'était pas en harmonie avec la charia d'Allah tabaraka wa ta'ala et leur a donné donc la bonne conception qu'il fallait avoir. نكتفي بهذا إن شاء الله تعالى والعلم عند الله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.